Chapitre 26. Le lendemain matin, on aurait dit que le village au grand complet s'était retrouvé à l'église pour la première messe. Comme le bâtiment ne pouvait contenir tout le monde, ce fut donc premier arrivé, premier servi. Le bedeau, installé sur le parvis et affichant une mine secrète, informait les malchanceux éconduits qu'ils devraient revenir pour 9 heures et peut-être même 10 heures pour le troisième office du jour. Horace, fâché de ne pas faire partie du premier groupe malgré sa grande foi, grimpa difficilement dans la carriole conduite par Tom en maugréant.
« Je peux pas croire que tout d'un coup, tous les habitants veulent venir à la messe de 8 heures. Ça me choque, je peux te le dire. »«
Voyons, papa, vire-toi pas à l'envers de même. On va le voir bien assez vite, le nouveau curé. »
Tom, au contraire de son paternel, ne se fit pas prier pour retourner chez lui. Il enverrait Simone avec son père pour la messe de 9 heures. Il pourrait lui révéler qui serait le saint homme qui remplacerait le curé Mathieu au village. Car un mois plus tôt, au grand étonnement de tous les habitants, l'ecclésiastique avait quitté Lens-à-la-Joie pour aller s'installer dans la ville de Québec, chez sa sœur cadette. On lui avait proposé une cure dans la paroisse de cette dernière, et c'est avec effarement que les villageois avaient appris qu'Hector Mathieu avait fait la demande depuis plus d'un an pour changer de paroisse. Au bedeau, il avait expliqué que ses 20 ans passés en Gaspésie l'avaient miné, et que s'il voulait vivre encore longtemps, il devait retrouver la civilisation. La civilisation, avait grommelé Horace quand la rumeur s'était propagée à propos des raisons véritables du départ de ce curé.
Je veux lui en faire, moi, une civilisation. Un homme même pas capable d'empathie envers ses ouailles, ça mérite de vivre dans une caverne, pas dans une ville ou un village.
Horace n'avait jamais digéré la décision du curé Mathieu de nommer son petit-fils à la messe de minuit, sans avoir auparavant pris la peine d'aviser les parents de l'enfant. Depuis un mois, les habitants devaient se rendre à Percé tous les dimanches matins s'ils désiraient assister à un office religieux. Les moins pieux avaient profité de cette absence pour négliger leur foi, sous prétexte qu'ils ne feraient pas 1 heure de carriole pour aller prier. Ils pouvaient le faire dans le confort de leur foyer. Mais voilà qu'enfin les villageois connaîtraient le nouveau curé. Horace espérait bien que le remplaçant serait un homme honorable. Quand Tom pénétra dans sa maison, il avisa sa femme.
« Va falloir que tu retournes à l'église avec papa. C'était plein pour la messe de 8 heures et moi j'ai prévu de monter sur le toit vérifier les lucarnes. »
Simone fit la moue et voulut riposter, mais devant l'air sérieux de son beau-père, elle retint ses paroles acerbes. Elle se retrouva bien malgré elle à la messe de 9 heures, celle où se rendit aussi Madeleine, accompagnée de Palmyre. Enceinte de 3 mois, la jeune femme monta d'un pas leste dans la carriole, pour ensuite se diriger vers l'église avec sa grand-mère. À choisir entre 2 mots, Freddy avait préféré de loin s'occuper d'Arthur.
« Tu me diras la grande nouvelle. De toute manière, on va le rencontrer bien assez vite. Puis, si tu veux mon avis, ils sont tous pareils, ces curés-là. »
« Freddy !»
avait sermonné sa femme avant de cacher ses boucles brunes sous son chapeau neuf. Quand elles mirent le pied sur le parvis, Palmyre et Madeleine aperçurent du coin de l'œil l'arrière du corps d'Horace, qui s'engouffrait dans l'église par la porte blanche. Hésitante, la jeune regarda sa grand-mère et souffla « On devrait peut-être revenir à 10 heures. Je voudrais pas mettre Simone mal à l'aise. »
« Écoute-moi bien, ma fille. On va rentrer dans l'église, marcher jusqu'au banc le plus près et s'asseoir là sans faire de vagues. Je pourrai pas faire des allers-retours 100 fois, moi. »
répondit aussitôt Palmyre, qui tenait le bras de Madeleine et sa canne de l'autre main.
« Vous vivez dans le même village. Il va falloir apprendre à être civilisés l'une avec l'autre. »
Sa petite fille tergiversa un moment, le visage tourné vers la mer. La neige était toujours abondante sur le sol et, au loin, l'île Bonaventure ressemblait à un énorme iceberg flottant. Se mordillant la lèvre, elle inspira profondément en se retenant pour dire à sa grand-mère qu'on parlait de 2 allers-retours, pas de 100. Réalisant toutefois que Palmyre avait raison, Madeleine monta sur le parvis avec détermination.
« C'est vrai, grand-mère, on va pas s'éviter toute notre vie. »
Dans l'église, la fébrilité flottait dans l'air. Les villageois formaient de petits conciliabules ici et là, tout en jetant de fréquents coups d'œil vers l'avant de l'église. Le regard de la jeune femme se dirigea immédiatement vers Simone.
elle remarqua que les cheveux de sa sœur ne dépassaient pas ses oreilles. Et lorsqu'elle se pencha vers Horace, Madeleine fut soulagée de constater que son visage avait repris une belle rondeur. Après la mort d'Éloi, les joues de sa jumelle s'étaient creusées et elle avait eu la douleur inscrite en permanence sur ses traits. Comme si elle sentait qu'on la regardait, Simone se tourna vers l'arrière et grimaça légèrement en remarquant Madeleine. Puis elle répondit au geste affectueux de Palmyre par un sourire qui ne s'adressait qu'à elle. « Au moins, elle vous a salué, grand-mère. Vous êtes chanceuse. » Palmyre allait répliquer lorsqu'un brouhaha en provenance de l'avant s'intensifia. La porte de la petite sacristie s'ouvrit pour laisser passer le nouveau curé de Lens à la Joie. Dire que les jumelles restèrent bouche bée lorsque leur frère Jacquelin s'installa à l'hôtel était un euphémisme. Les yeux grands ouverts, Madeleine et Simone laissèrent échapper un « quoi ?» presque simultané, avant de se tourner l'une vers l'autre. Sans même le réaliser, Simone demanda silencieusement à sa sœur « Tu le savais ?» Et Madeleine haussa les épaules en secouant sa tête. Palmyre, elle, étirait son cou et répétait sans cesse « C'est Jacquelin ? Ben voyons donc, Jacquelin !» Madeleine allait lui commander de se taire lorsque son frère prit la parole de son ton grandiloquent. « Mes chers concitoyens, c'est avec un énorme plaisir que j'ai accepté de revenir dans mon village afin d'occuper le poste de curé de Lens à la Joie. Même si j'ai longtemps hésité, car cela veut dire faire une croix sur l'enseignement, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un signe du destin. Quand la vie vous... » Pendant que le discours de Jacquelin Gérard s'éternisait devant les mines satisfaites de la plupart des villageois, Madeleine et Simone soupirèrent à l'unisson. Ni l'une ni l'autre ne voyaient d'un bon œil le retour de l'enfant prodigue à Lens à la Joie. Leur liberté venait de prendre fin, songeaient les jumelles. Leur aîné se ferait un plaisir de commenter et d'épier leurs faits et gestes. Débinées, elles imaginaient sans difficulté la réaction de leurs époux respectifs. « Pas question que je me confesse à ton frère, moi en tout cas », répliqua comme de fait Freddy lorsque Madeleine lui fit part de la grande nouvelle à son retour à la maison. Hey, « Tu parles d'une affaire. Je peux pas croire qu'il avait besoin de venir faire son curé par chez nous. Freddy, un peu de respect !» grogna Palmyre en levant la tête de sa broderie. Après avoir cousu une vingtaine de têtes d'oreiller dans un beau coton, la vieille avait décidé de les enjoliver avec des petites fleurs roses et bleues. « Moi, tu sauras, je suis très fière que mon petit-fils soit responsable de notre église. C'est un homme bon et... Oh, je te gage que c'était pour ça qu'il est venu nous visiter au mois de novembre. » La coupa Madeleine, dont le visage rougi, témoignait de son émotion. « M'a dit... Oh... « Excusez-moi, grand-mère, continuez. » La femme âgée piqua son aiguille dans le tissu, puis poursuivit sa pensée. « S'il y a quelqu'un qui peut ramener le monde dans notre église, c'est bien Jacquelin. Il est encore jeune, digne et il a beaucoup de caractère. » Freddy, qui empilait des bûches près du poêle, se retint pour compléter avec « Il se prend pour un être supérieur et il a la critique bien facile. » Mais sachant qu'il ne gagnerait pas cette bataille, il se tut en se promettant d'aller au magasin général le lendemain à la première heure pour prendre le pouls du village. Il trouverait bien une raison pour s'y rendre, un achat de poudre quelconque pour sa femme ou peut-être même une nouvelle paire de gants. En attendant, vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil s'enfonçait derrière le rocher percé, l'homme eut le déplaisir de recevoir la visite de ce beau-frère si près du Seigneur. Quand les coups résonnèrent à la porte de la Maison Bleue, Freddy s'en voulut de ne pas avoir prévu une sortie en raquette pour aller vérifier n'importe quoi au fond de son champ. Trop tard, Jacquelin se tenait sur le seuil du tambour, affichant encore plus de suffisance qu'avant, lui sembla-t-il. « Bonjour Jacquelin, entre donc. » Salua d'un ton affable le pêcheur en tentant de présenter un visage souriant à son beau-frère. « Freddy, « je ne te croyais pas au village. » Le jeune homme fronça ses épais sourcils et sauta à pieds joints dans le piège tendu par Jacquelin. « Ben oui, pourquoi je serais ailleurs ?»« Comme je ne t'ai pas vu à l'église ce matin, je me suis dit qu'une urgence avait dû t'obliger à aller à Percé ou même à Gaspé, mais il semble bien que non. » Les yeux perçants de Jacqueline ne quittèrent pas la face écarlate de son cadet, qui rageait intérieurement. Il allait répondre sèchement lorsque Madeleine arriva derrière lui et s'en chargea. « Il fallait bien que quelqu'un reste avec Arthur. »«
Ah bon? Et pourquoi ton fils ne vient-il pas à la rencontre du Seigneur? Peux-tu m'expliquer ça, ma sœur? Il me semble qu'en plus, tu as besoin de te réconcilier avec lui. Si tu commences à négliger tes devoirs... »
Le visage poupin de Freddy se crispa sous la critique, alors que Madeleine baissa ses paupières pour calmer les battements effrénés de son cœur. Elle avait envie de s'enfuir dans sa chambre en courant. Si Jacqueline était pour lui rappeler sans cesse la mort d'Éloi, son arrivée au village serait encore plus terrible que ce qu'elle anticipait. Reculant sans répondre, elle traversa le salon et se dirigea vers sa cuisine pour continuer de couper ses pommes de terre. Son époux s'occupa de remettre le curé à sa place. « Notre gars est grippé, c'est pas le temps de le traîner dehors. Puis inquiète-toi pas pour la foi de ta sœur, elle se porte très bien. Ça répond à ton interrogation? » demanda Freddy ironiquement, sans se préoccuper de la réaction de Jacqueline. Ce dernier, satisfait de la réponse, baissa sa tête blonde. Il tendit son long manteau noir à Freddy qui l'accrocha au mur près de la porte. « Je préférerais que tu le mettes sur la patère. Ces crochets que vous utilisez déforment le col des vêtements. » Les poings fermés bien fort, Freddy reprit le vêtement et pénétra dans la maison sans plus attendre, en se retenant de lancer le manteau sur la patère près de la porte avant de la maison. « Saint crème qui m'énerve !» songea l'homme en essayant de se composer une figure neutre, avant de rejoindre Jacqueline, déjà assis au salon. « Comme ça, vous allez avoir un autre bébé? C'est une bonne nouvelle. Je suis content de constater que vous ne faites pas comme Tom et Simone. »«
Tom et Simone, qu'est-ce qu'ils font? »
demanda distraitement Madeleine en saupoudrant ses légumes d'une bonne quantité de sel et de poivre.
« Tu sais bien, ils empêchent la famille. Après ça, ils se demandent pourquoi ils subissent des épreuves comme celle de la mort d'Éloi. »
Estomaqué par le commentaire erroné du curé, tant Freddy que Madeleine sursautèrent et s'exclamèrent simultanément «
Mais pas du tout !»
Délaissant sa tâche, la jeune femme essuya ses mains sur son tablier et s'avança pour se placer directement devant son aîné. Ce dernier réalisa aussitôt que sa remarque avait été bien mal reçue. Toutefois, avant qu'il ne puisse préciser sa pensée, Madeleine parla d'une voix assourdie par la colère.
« Écoute-moi bien, Jacqueline, parce que je ne te dirai pas une autre fois. Je veux plus entendre parler de la tragédie de l'année passée. Un instant, ma sœur. Je n'aime pas le ton que tu emploies. »
L'imposant curé s'avança sur le bout du divan en levant une main devant lui avec un doigt accusateur. Mais le visage rond de Madeleine se pencha et elle repoussa sèchement le bras de son frère. Une veine palpitait dans son cou tendu et elle poursuivit.
« Je vivrai toute ma vie avec ce que j'ai fait. J'ai pas besoin en plus que tu me le rappelles à chacune de nos rencontres. Quant à Simone et Tom, tu sauras que c'est un drame dans leur vie que de pas pouvoir avoir d'autres enfants. Il a jamais été question d'empêcher la famille, mais plutôt d'éviter la mort de notre sœur si elle tombait de nouveau enceinte, c'est clair? »
Abasourdi par le ton qui accompagnait les paroles de sa femme, Freddy resta près du couloir en se retenant pour la prendre dans ses bras et la féliciter. Jacqueline, tout aussi stupéfait, mit quelques secondes à reprendre connaissance. Il pinça sa bouche et lissa sa chevelure abondante, puis répondit « Très clair.
Je sens donc que ma présence n'est pas la bienvenue ici, alors j'ai jamais dit ça, Jacqueline. Mais moi pas des mots dans la bouche. » « Si tu veux souper avec nous autres, ça va me faire plaisir, mais tu connais maintenant ma seule et unique condition. »
Madeleine respira longuement pour chasser la tension dans ses épaules. Freddy mit la main dans sa poche en croisant les doigts, souhaitant de tout son cœur voir son beau-frère se lever et sortir de la maison. Mais c'était sans compter la gourmandise du curé, qui se réinstalla au fond du divan, les bras croisés sur la poitrine et lança «
Si tu le prends ainsi, « moi, je veux juste m'assurer que vous trouviez tous une place dans la maison du Seigneur une fois que vous serez au paradis. Quand j'ai appris que le curé Mathieu souhaitait quitter notre village, j'ai sauté sur l'occasion de me rapprocher de vous. Il me semble que c'est mon devoir de vous assister dans votre cheminement vers la réconciliation. » Il allait poursuivre lorsque le pomme à l'assuré de Palmyre se fit entendre dans le corridor. Son beau visage ridé s'éclaira lorsqu'elle émergea dans la pièce où se trouvaient les trois autres. Coquette, la vieille dame leva une main pour placer une mèche blanche sortie de sa fine tresse et s'approcha en souriant. « Me semblait bien que j'avais entendu ta voix, mon petit-fils. Je suis tellement fière et heureuse de cette belle surprise. Quel bonheur de te voir revenu au village. Je suis certaine que tes sœurs voient ton arrivée comme un baume sur une plaie. Dieu nous fait un bien bel honneur en tout cas. » Enfin satisfait d'être accueilli à sa juste valeur, Jacqueline s'empressa de se lever pour aider Palmyre à le rejoindre sur le divan. « En effet, chère grand-mère, une bien grande joie pour tout le monde. » « De retour au village?
Ah ben, tu parles d'une surprise !» s'exclama Clémence en repliant la lettre de Simone pour la ranger dans un tiroir avec toutes les autres reçues depuis son arrivée à Rimouski.
Elle se dirigea vers la fenêtre de son petit appartement qui donnait sur la rue Saint-Germain et fut satisfaite en voyant le soleil faire fondre la neige accumulée pendant l'hiver. Tout en passant son soutien-gorge, Clémence cherchait la meilleure manière de convaincre son amoureux de l'accompagner une nouvelle fois au village vers la fin du mois d'avril. La jeune secrétaire n'avait pas remis les pieds à Lens à la joie depuis les fêtes. « Nous boudes-tu, ma foi? » lui avait demandé Madeleine la semaine précédente lorsqu'elle l'avait appelée du magasin général pour lui annoncer sa nouvelle grossesse. « J'aurais voulu te l'apprendre de vive voix, mais depuis Noël, de repousser tes visites chaque fois. T'es fâchée? »
« Mais non !» avait répondu Clémence en soupirant discrètement. « J'ai juste beaucoup de travail à l'hôpital et honnêtement, l'idée de faire autant d'heures de bus en deux jours me plaît pas tant. Je te promets de venir avant le début de la pêche. »
Ce qui l'avait amené à prévoir une visite lors de la fin de semaine de Pâques. Quand elle pensa à son frère Jacquelin, prêchant devant la petite église villageoise, Clémence murmura à voix haute, comme cela lui arrivait souvent pour combler le silence. « J'imagine que ça peut pas être pire que le curé Mathieu. Après sa bourde à la messe de minuit, mes sœurs devaient le haïr en pas pour rire. En même temps, je connais pas tellement Jacqueline, moi. Il avait un pied dans la porte quand je suis née, et si je me trompe pas, il a quitté pour étudier au séminaire quand j'avais juste 6 ans. C'est pas pendant les vacances d'été que je pouvais mieux le connaître. Il passait ses journées sur la barge avec papa. En tout cas, j'espère qu'il va être plus empathique que l'ancien curé. »
La grande châtaine s'empressa de se signer pour se faire pardonner cette pensée. Puis elle glissa ses longues jambes dans son collant gris et ensuite dans sa jupe à carreaux.
Une dernière journée à l'hôpital et ensuite une belle soirée avec mon amoureux. On va aller au nouveau restaurant qui vient d'ouvrir sur la rue de la cathédrale. Sylvestre a dit qu'il a regardé le menu en passant devant en début de semaine et que tout avait l'air délicieux.
Gourmande, la jeune femme se pourlécha les lèvres, puis elle jeta un regard sur son horloge au-dessus de sa porte d'appartement.
« Oups! Il faut que je me grouille. Il me reste 15 minutes pour arriver sur Sainte-Marie. »
Quand elle grimpa le petit escalier sur le côté de la grande demeure du médecin qui l'hébergeait depuis quelques années, Clémence fut surprise de constater la présence de l'homme maigre au menton très pointu au volant de sa voiture Bourgogne. Le regard de Charles Marien était dirigé vers la jeune femme et il lui fit un petit signe de la main pour qu'elle s'approche.
« Bonjour, mademoiselle Girard, je vous attendais. »
La voix sérieuse était habituelle chez le médecin septentuagénaire et il utilisait toujours le même ton pour parler à ses patients, aux employés de l'hôpital ou à son épouse. Clémence n'y vit donc rien d'alarmant. Sourire aux lèvres, elle se demandait juste comment expliquer qu'elle était pressée sans manquer de respect envers son propriétaire.
« Ah bon? C'est juste que je dois vraiment me dépêcher, je suis un peu en retard. Si vous voulez, je vous emmène, je vais à l'hôpital ce matin. »
Heureuse de cette opportunité, Clémence ne se fit pas prier.
« Alors, c'est pas de refus, merci beaucoup. »
La femme fit rapidement le tour de la voiture récente pour se faufiler dans l'habitacle. La température au-dessus de zéro depuis quelques jours était bien agréable et la neige fondait sur les trottoirs et dans les rues. Par contre, pour les chaussures de cuir de Clémence, cette situation était un peu moins plaisante. Si la jeune secrétaire pouvait épargner ses souliers en évitant de marcher dans la neige, elle en profiterait assurément. Mais mal lui en prit, comme elle s'en rendit compte rapidement. Son propriétaire était un homme de principe, bien prêt de prendre sa retraite à l'âge vénérable de 72 ans. Avec son épouse, femme au foyer, ils avaient élevé 5 enfants, qui habitaient encore tous en Gaspésie. 2 de leurs fils étaient médecins et leur cadette infirmière. C'est d'ailleurs par l'entremise de cette dernière, Aurélie, que Clémence avait obtenu la possibilité d'occuper l'appartement au sous-sol de la grande demeure de briques grises, sise au coin de la rue Saint-Yves. De leur balcon avant, la vue de la mer était époustouflante, et à l'occasion, Clémence se permettait de s'asseoir sur les marches lorsque les propriétaires étaient absents pour regarder le soleil descendre dans les eaux du fleuve. En reculant dans la rue, le docteur Marien se concentra sur sa conduite. Il n'entra dans le vif du sujet qui le préoccupait qu'en s'engageant dans le chemin en direction de l'hôpital. « Ma fille me dit que vous avez un prétendant, Mademoiselle Gérard. » « Oh oui !» répondit gaiement Clémence en rougissant joliment. « Mais c'est assez récent. Il est quand même venu avec moi dans mon village à Noël. » Fière de son bel amoureux, la femme voulut énumérer naïvement ses qualités, mais Charles Marien l'en empêcha. « C'est votre fiancé ? » s'informa-t-il les yeux sur la route peu achalandée. « Pas encore. Nous nous connaissons depuis quelques mois seulement. L'homme dont la pomme d'Adam, proéminente, montait et descendait au même rythme que ses paroles, jeta un regard oblique vers sa voisine. « D'après ce que m'a dit ma fille, il n'est pas... » Comme il semblait chercher ses mots, Clémence voulut l'aider et répéta sans arrière-pensée « Il est pas quoi ?»« Eh bien, il est différent. » « Différent ?» Tout d'un coup, la jeune secrétaire se sentit moins à l'aise dans l'habitacle. Elle se mit à suer sous son manteau et enleva son béret pour se donner une contenance. Clémence comprenait que ce n'était peut-être pas la gentillesse qui avait motivé le geste de son propriétaire. L'homme n'ajouta rien, se contentant de la dévisager sévèrement. « Vous savez, mademoiselle, que nous ne voulons pas de problème avec notre locataire, n'est-ce pas ? C'était bien clair lorsque nous vous avons loué le logement. » De plus en plus incertaine quant à la tournure que prenait la conversation, Clémence espérait de tout son cœur que la couleur de peau de Sylvestre ne soit pas à l'origine de celle-ci. Mais quelle autre raison pouvait embêter autant le docteur Marien? Sylvestre avait un bon travail, un appartement à lui. « Vous n'aurez pas de problème avec moi, monsieur. Ça fait plus que 3 ans que j'habite chez vous. » « Est-ce que je vous ai donné des raisons d'être insatisfait? Je comprends pas pourquoi vous vous inquiétez. Eh bien, disons que mon épouse et moi ne désirons pas être associés avec ce genre de personnes. » Même si le soleil était éclatant en cette matinée de la fin mars, Clémence eut l'impression qu'un gros nuage s'installait au-dessus de sa tête. « Ce genre de personnes... » questionna-t-elle sur un ton hésitant. La jeune femme n'avait pas l'intention de rendre la tâche plus facile au médecin assis à ses côtés. Comme ils étaient rendus devant la grosse bâtisse de briques brunes, l'homme stationna son véhicule avant de prendre sa mallette de cuir entre eux. Il posa son regard caché par des lunettes cerclées brunes sur le visage fermé de Clémence. « Vous savez bien, des gens d'une autre origine que la nôtre. » « Voilà, » songea tristement la femme, « vous l'avez dit. » Tentant de ne pas montrer sa colère, la passagère réenfila son béret de laine beige et mit la main sur la poignée. « Je vous remercie de m'avoir accompagnée. Pour ce qui est de mon amoureux, sachez que notre Seigneur ouvre les portes de sa maison à tous les êtres humains de cette planète. Peut-être que les hommes devraient en faire autant. À bientôt. » Avant que son propriétaire ne puisse réagir à son commentaire, Clémence avait ouvert la porte du véhicule pour s'éloigner au plus vite de cet environnement malheureux. Mais comme elle se dirigeait vers les lourdes portes de l'hôpital, le docteur se pencha et eut le temps de crier « Ne le faites pas entrer dans le logement, Mademoiselle Gérard, je vous avertis !» Clémence leva une main sans se retourner, trop heurtée. Elle accéléra le pas vers l'entrée principale, enragée, et maugréa à voix haute en imitant son propriétaire. « Pas dans mon logement! Pas dans mon logement! »
« Moi, lui en faire, moi. Je peux bien décider d'inviter qui je veux chez moi. »
Mais malgré son esprit vengeur, c'est surtout une grande peine qui s'installa au fond du cœur. Elle comprenait à présent la colère et la hargne qu'éprouvait son compagnon quand les gens les observaient, les regardaient de travers. « Je prendrai plus jamais ça à la légère, » songea-t-elle, en s'engouffrant dans le bâtiment. « Je vais plutôt me battre à ses côtés pour que les choses changent. »
En arrivant derrière le comptoir des admissions, Clémence salua distraitement ses collègues avant de retirer son manteau. Elle décida d'oublier momentanément cette conversation pour se concentrer sur sa journée de travail et surtout sa soirée avec Sylvestre. La courte discussion avec Charles Marien l'avait surtout convaincue que son amour envers cet homme était profond et bien réel. Sinon, pourquoi aurait-elle eu si mal à l'idée qu'on l'ostracisait ainsi simplement parce que sa peau était plus foncée? S'il y avait une chose dont elle était convaincue, c'était que personne ne lui dirait qui elle avait le droit de fréquenter, ni le docteur Marien, ni ses collègues, ni ses sœurs ou son frère. Pourtant, lorsqu'elle quitta enfin l'hôpital en fin d'après-midi, la pauvre Clémence n'avait pas encore digéré la leçon que lui avait assénée le vieil homme ce matin-là. Elle espérait surtout ne pas le croiser une fois rendue à la maison.